Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Dans la famille, ils ont complètement perdu la boule, je demande le fils. Charles VI, roi de France pendant la guerre de Cent Ans, Charles, dit Charles le Fou, a connu des crises de démence hallucinantes tout au long de son règne. C'est son histoire que nous raconte Stéphane Bern.
Venez avec moi, Mathieu, dans la forêt du Mans, cette belle journée du 5 août 1392.
J'ai un petit peu peur, c'est là, je suis obligé de venir.
Restons à l'ombre d'un chêne. Déjà parce qu'il fait une chaleur à se trouver mal, mais aussi parce que la scène va dégénérer. Un jeune homme de 23 ans, à la chevelure dorée, galope nerveusement à travers une clairière. Des soldats à ses côtés. C'est le roi de France, Charles VI. Monté sur le trône en 1380, voilà déjà 4 ans qu'il a décidé de régner seul, congédiant ses oncles, les ducs de Bourgogne, d'Anjou et de Berry. Bien décidé à se la jouer héros conquérant, Charles VI mène une campagne contre Pierre de Cran. Ce vassal du duc de Bretagne a tenté quelques mois plus tôt de faire assassiner Olivier de Clisson, connétable de France et ami personnel du roi. Au moment de rejoindre la plaine, un monstre surgit de nulle part. Il fait peur à voir et doit sûrement venir d'une léproserie voisine, ce lieu qui réunissait les lépreux. Le voilà qui s'adresse au roi. Il faut que je parle à la façon d'autrefois.
Ah oui, il faut que tu parles comme ça.
Ne passe plus outre, noble roi, parce qu'on te va trahir. De quoi donner des sueurs froides à son interlocuteur. Charles VI poursuit sa route lorsqu'un page, assommé de fatigue et de chaleur, laisse tomber sa lance qui vient frapper le casque de son voisin. Ni une ni deux, le roi, dans un sursaut, tranche en deux le page maladroit avec son épée. Dans un état de fureur et de frénésie, il taille en pièces 4 autres cavaliers en hurlant « On va me livrer à mes ennemis !» On ne peut pas se défendre car cela voudrait dire se battre contre le roi.
Ils se sont laissés assassiner.
Tout bonnement impensable, Mathieu, je sais. Au bout d'une heure d'hystérie, Charles VI brise involontairement son arme. Un chevalier en profite pour le maîtriser. Immobilisé par ses hommes, le roi est ligoté sur un chariot et rapatrié. Pendant 3 jours, il est dans un coma profond. On le croit mort, mais Charles reprend connaissance, se confesse et demande pardon. Quelques semaines de repos et le revoilà de nouveau sur pied. Mais a-t-il toute sa tête ? Dans le royaume, la nouvelle se répand. Le roi est bredin, le roi est folle. Un médecin est appelé à la cour, un certain Guillaume de Hercigny. Il évoque une faiblesse de tête, due à un épanchement de bile noire. Au Moyen-Âge, la médecine n'a pas tellement évolué depuis l'Antiquité. La théorie des humeurs d'Hippocrate est toujours d'actualité et les maladies mentales sont attribuées à un excès de bile. Le docteur Hercigny préconise aussi du repos, du grand air et interdit toute contradiction. Il faut entrer dans la folie du roi. Sans le savoir, il jette les bases de la psychiatrie moderne. Le roi tient trop de la moiteur de sa mère, analyse-t-il. Charles VI a-t-il hérité de la folie de sa mère, Jeanne de Bourbon, vous avez connu sous son surnom de Jeanne la folle. Si on commence à se pencher du côté de la génétique, la consanguinité peut aussi être tenue pour responsable. Depuis Saint-Louis, tous les mariages se font dans la même famille. Le 28 janvier 1393, Charles VI fait montre une fois de plus de sa folie. Un bal est donné à l'hôtel Saint-Paul pour célébrer le mariage d'une des dames de compagnie de la reine Isabeau de Bavière. Les vieux oncles vont se coucher et laissent les jeunes s'amuser, alors que la fête bat son plein, des cris d'animaux retentissent. Le roi et 5 nobles compagnons font irruption dans la salle, déguisés en sauvages. Ils sont enduits de poids et de poils d'animaux et attachés les uns aux autres. Une bien funeste idée car une flamèche les touche et pouf, tout le monde s'embrase. Le religieux de Saint-Denis décrit avec horreur le drame qui s'ensuit. La flamme dévorante s'élevait jusqu'au plafond. La poêle liquéfiée ruisselait sur leur corps et pénétrait dans leur chair. Ils furent pendant près d'une demi-heure en proie à ces souffrances. En essayant d'éteindre le feu, en cherchant à déchirer leurs vêtements, ils se brûlèrent et se calcinèrent les mains. Le feu consuma aussi les parties inférieures de leur corps et leurs membres virils qui tombaient par lambeaux inondèrent de sang le plancher de la salle.
Ça vous plaît Stéphane, là, parce que vous ne le voyez pas, chers auditeurs, mais il faut nous suivre en vidéo pour ça, c'est que quand ça touche aux parties intimes, aux parties inférieures, comme vous l'avez gentiment dit, tout de suite, il y a un sourire, ça me fait penser au sourire de Nicholson quand il joue le Joker dans Batman, c'est ce sourire terrible que vous avez dans ces moments-là.
Non, simplement, je suis dans le personnage,
vous y êtes bien,
je suis dans le religieux de Saint-Denis. Heureusement pour le roi, Une jeune tante, par alliance, l'enveloppe de sa traîne pour étouffer le feu. Était-ce là encore une crise de démence? Pas sûr. En voir la réaction de Charles VI, une fois le feu éteint, il s'enquiert de l'état de ses amis et rassure son épouse enceinte, qui a fait un malaise à la vue de cette scène. Un autre épisode, qui se déroule au mois de juin 1393 à Abbeville, confirme bien son état de santé. Charles VI perd complètement contact avec la réalité. Hyperactif, il se met à tout casser. Qui sont ces fous autour de lui qui le prennent pour le roi? N'importe quoi. Il s'appelle Georges, nom de Dieu. Dans cette crise identitaire, il ne reconnaît ni sa femme, ni ses enfants.
Là, c'est quand même là qu'il finit par perdre toute crédibilité, non?
Non. Charles est toujours surnommé le roi bien-aimé. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'on l'appellera Charles le Fou. Pour le peuple, c'est une grande souffrance. La maladie mentale est un châtiment du ciel, une punition des péchés de ses sujets. Le roi est vu comme une victime qui cristallise sur sa personne la colère de Dieu. Des dizaines de médecins sont consultés, sorciers et charlatans défilent aussi à son chevet. Potions, invocations du diable, tout est fait pour lever le maléfice. Le sixième enfant de Charles VI et d'Isabeau de Bavière est prénommé Marie. La petite est conduite au monastère de Poissy dès ses 4 ans pour y consacrer sa vie. Des messes et processions sont organisées partout dans le royaume. Les juifs sont expulsés, ces hérétiques doivent sûrement attirer le malheur sur le royaume. Des ordonnances officielles interdisent les péchés les plus communs, comme la prostitution, le blasphème, le jeu d'argent. La rigueur est de retour pour expier les péchés des Français. Mais rien n'y fait, Mathieu. Rien ne parvient à apaiser la colère de Dieu et à conjurer le mauvais sort. Et vous allez voir que les crises de démence du roi Charles VI ne font que commencer.
Reviens, ils sont devenus fous. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. Et Stéphane, vous revenez sur la folle vie, ou plutôt la vie d'un fou, celui d'un roi de France, Charles VI, qui a montré déjà quelques signes flagrants de démence. Mais à vous écouter, ça n'a fait qu'empirer.
Oui, tout à fait, Mathieu. Sur les 42 années de règne, on compte 30 ans de maladie. Le pauvre Charles VI est victime d'environ 56 crises qui peuvent durer quelques semaines ou plusieurs mois. Aussi s'habitue-t-on à le voir traverser son palais en courant ou danser d'une façon burlesque et inconvenante. Comme Charles VI refuse de se changer, de se laver, la vermine prolifère sur son corps. Le religieux de Saint-Denis en témoigne. Il y avait 5 mois qu'il se refusait à tout cela et déjà la crasse produite par des sueurs fétides avait fait venir des pustules sur plusieurs parties de son corps. Il était tout rongé de vermine et de poux. Un jour, Charles VI interdit à quiconque de le toucher et demande à ce qu'on lui barde les membres d'attelle de fer. Il a peur de se briser, étant convaincu que ses os sont intégralement faits de verre. Entre ces crises de violence viennent des crises de prostration. Renfermé sur lui-même, Charles VI ne parle plus. On dit que le roi est absent. Mais dès qu'il se remet de ses accès de maladie, le roi reprend son rôle, assumant pleinement et efficacement ses fonctions. Imposant sa volonté, il revient parfois sur des décisions importantes prises par le conseil de régence lorsqu'il était en proie à sa démence. Quand il n'élabore pas des stratégies militaires, il tire à l'arbalète, s'adonne aux jeux de paume, joue aux échecs et aux cartes, ce qui témoigne du maintien de ses capacités physiques et cognitives. Charles VI était donc certainement bipolaire et non schizophrène, comme cela a souvent été dit. Et il a conscience de sa maladie. En mars 1402, il fait publier une ordonnance octroyant les pleins pouvoirs à son épouse en cas d'incapacité de sa part. Ce gouvernement en dents de scie apporte son lot de problèmes, comme l'assassinat du frère du roi Louis d'Orléans qui entraîne la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Les Anglais en profitent pour relancer la guerre de Cent Ans. Après le désastre d'Azincourt en 1415, Charles VI bannit son fils, le futur Charles VII, et fait d'Henri V d'Angleterre son héritier en signant le honteux traité de Troyes. Ce qui fait que jusqu'en 1802, les rois d'Angleterre utiliseront le titre de roi de France. Ah, si ce bon Charles VI n'avait pas sombré dans la folie, le destin de l'Europe aurait été tout autre.
Europe 1, historiquement vôtre.